Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Bah en fait, si je porte un survêt, on va me dire racaille. Si je porte une voile, on va me dire soumise. Si je porte des talons, on va me dire burette. Dans tous les cas, je vais me prendre quelque chose dans la figure, quoi. Donc autant être moi-même. Mais après, c'est vrai qu'à Sciences Po, j'en ai joué. Hein. Je faisais exprès de leur parler de Audi et de Louboutin. Enfin, c'était. Je faisais exprès parce que. Je sais pas, moi j'aimais bien voir leur réaction. J'étais là, ouais, moi mon rêve c'est d'avoir une Audi, de porter des Louboutins. Et encore, tu sais que une blanche qui dirait ça, est-ce que ce serait mal vu? Parce que tu vois, l'Assemblée nationale, elles sont toutes en Louboutin. Et elles ont potentiellement toutes des Audi. Mais elles, c'est classe, ça veut dire qu'elles ont réussi socialement. Mais nous, tu vois une meuf rebeu avec des talons et une Mercedes, tu vas te dire quoi? Ouais, c'est une michto, voilà, c'est une matérialiste.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Alors moi, je m'appelle Nesrine Slaoui, j'ai bientôt 26 ans et je suis journaliste de presse écrite et aussi en télé. Je suis pigiste pour l'instant.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance?
Moi, je suis née au Maroc, donc je suis née au Maroc en 1994 et je suis venue très très jeune en France. Je suis venue quand j'avais 3 ans. Et en fait, quand je suis venue en France, je suis venue qu'avec ma maman. Mon papa, il nous a rejoints 4-5 ans après. Et mon enfance, elle est un peu particulière, c'est-à-dire que moi, je suis une banlieusarde, mais une banlieusarde campagnarde. C'est-à-dire que j'ai grandi dans le quartier populaire d'une ville de campagne. Donc en gros, dans ma ville, elle s'appelle Apt. C'est genre à... Je pense en voiture, ça... 45 minutes d'Avignon, dans le sud, dans le Vaucluse. Et donc, en fait, voilà, c'est une petite ville de 10 000 habitants. Et même dans cette petite ville de 10 000 habitants, en fait, on était encore plus exclus de tout parce qu'on était dans le petit quartier populaire qui s'appelle Saint-Joseph. Donc, j'ai grandi dans ce petit quartier populaire. On devait être à l'intérieur. Franchement, on devait être à peu près 300, je pense, avec les familles. Ouais, c'était pas très grand. Maintenant, je découvre Paris. J'ai découvert, parce que je travaille pour le Bondi Blog, donc j'ai découvert ce que c'était la banlieue parisienne, notamment le 93. Et contrairement, moi, à Paris et aux banlieues des grandes villes, c'était des toutes petites tours de, à tout casser, 4 étages. Enfin, c'était vraiment tout petit. Et on avait juste en commun d'être tous issus de l'immigration maghrébine. Il n'y avait absolument pas d'Afrique subsaharienne, il n'y avait pas de Noirs dans mon quartier. C'était très particulier, je trouve, d'avoir que cette ambiance maghrébine. Il y avait très peu de Français blancs. En fait, il devait avoir 2-3 familles, vraiment, c'était très peu. Et on était entre Marocains et Algériens. Donc j'avais l'impression d'être au bled tout le temps. C'était vraiment, vraiment très, très particulier en termes d'enclavement et de mise en groupe, en fait. Donc voilà, j'ai grandi dans ce petit quartier populaire-là jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis partie pour faire mes études.
Mais du coup, qu'est-ce que ça faisait de grandir, en fait, dans cet environnement?
J'ai jamais su mettre les mots sur ce que c'était jusqu'à ce que je découvre la sociologie quand j'ai découvert Pierre Bourdieu, genre en terminale, en cours d'SES. Et en fait, il avait mis les mots exacts de ségrégation spatiale, ségrégation sociale et ségrégation ethnique. En fait, nous, c'était tout combiné. On était loin de tout, on était entre nous et on n'avait pas les moyens d'en sortir. Donc, c'est vraiment particulier parce que je pense que ce qui a rythmé notre enfance quand on est issu d'un milieu comme ça, c'est vraiment l'ennui. Nous, c'était vraiment un quartier où on s'ennuyait, il n'y avait rien à faire. Par exemple, dans le centre-ville d'Apt, il n'y avait pas de magasin de vêtements. Je parle de Zara, de Mango, voilà, des magasins de vêtements qu'on aime quand on est adolescente. Il y en avait très très peu, il n'y avait pas de cinéma. Le cinéma est arrivé quand j'avais 16 ans, donc c'était déjà trop tard. Et le cinéma qu'il y avait avant, il diffusait des films 3 semaines en retard. Tu avais l'impression d'être vraiment dans la France, loin de tout, loin de toute l'actualité culturelle. Donc je pense que vraiment ce qui a bercé notre enfance, mes potes et moi, c'est l'ennui. L'ennui total, et juste on s'asseyait sur le banc en bas de la cité, on écoutait du rap, on discutait, on faisait du hip-hop et on allait à la bibliothèque, mais vraiment on n'avait pas de grosses activités qui nous permettaient de nous sociabiliser, d'avoir juste une ouverture culturelle sur la France en fait. On était vraiment loin de tout.
Et tu as dit que ça te rappelait le bled, qu'est-ce que ça veut dire le bled et ça représentait quoi pour toi?
Quand je dis ça, moi ça n'a pas une connotation négative, au contraire, c'est parce que c'était... hyper solidaire en fait. On descendait pour aller chercher le sel chez la voisine d'en haut, les œufs chez la voisine d'en bas. C'était vraiment un échange permanent. Ma tante, elle allait récupérer les enfants de la voisine de l'immeuble d'en face. Enfin, c'était vraiment. Tout le monde s'organisait pour que tout le monde vive bien. Et parce qu'en fait, il y avait une particularité, c'est que C'est une ville industrielle, apte, c'est la capitale mondiale du fruit confit. C'est le seul...
Oh waouh.
Il faut bien un prix, il faut bien quelque chose. Non mais si je dis ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est parce que en fait, il y avait l'usine du fruit confit, des fruits confits du coup, qui a embauché quasiment toute la ville. Et surtout, donc, les parents issus de l'immigration. Et du coup, ils travaillaient très très tôt. Ils faisaient des 5h, 15h à peu près. 5h du matin, 15h, et du coup, en fait, il fallait une solidarité dans le quartier pour relayer les enfants qui allaient à l'école, etc. Et c'était très particulier, c'est que tout, enfin, quasiment, sauf mes parents à moi étaient, enfin, ils le sont toujours, ma mère est femme de ménage et mon père est maçon, mais il y avait beaucoup de familles qui avaient les deux parents qui travaillaient à l'usine. Donc, qui faisaient vraiment le travail à la chaîne, de fermer des bocaux, remplir les bocaux, etc. Donc ça, c'est très particulier parce que du coup, ça signifiait qu'il fallait qu'on s'organise tous ensemble pour pas que les petits ratent l'école le matin, etc. Donc il y avait vraiment une vraie solidarité là-dessus. Et quand je dis ça me rappelait le bled, c'est parce que justement, c'était très particulier. Je trouve qu'il n'y ait que deux immigrations représentées au final. Là, ça s'est ouvert. Maintenant, il y a des Syriens et tout. Mais moi, ça m'avait vraiment frappée. Parce que déjà, en fait, j'étais très jeune, sensibilisée au racisme. Peut-être que c'est ma mère qui me l'a transmis. J'ai pas encore analysé ça concrètement. Mais j'ai trouvé ça bizarre qu'on soit contre les Maghrébins. Parce que j'avais conscience que l'immigration en France, elle représentait beaucoup plus que le Maroc et l'Algérie. Je me disais, mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'ici, on soit que Maroc-Algérie ? Enfin, j'ai pas grandi avec d'autres cultures que celle-ci. Donc, à la fois, c'était facile pour moi parce que j'avais pas à m'adapter à d'autres cultures, j'avais pas à aller vers d'autres cultures, mais en même temps, je trouve que c'est très, je sais pas si ça se dit, mais renfermant. C'est-à-dire qu'on ne sort plus de qui on est, ça, je trouve ça un peu bizarre. Mais en même temps, voilà, c'était de la solidarité, et puis c'était des couscous partis le week-end, enfin voilà, c'est tout ce qu'on peut imaginer de Marocains, avec le cliché, malheureusement. Mais voilà, c'était ça un peu le contexte de mon enfance.
Et justement, est-ce que tu avais eu l'impression d'avoir changé de pays, finalement ? C'était toujours les mêmes personnes que tu croisais
Ouais, j'en avais conscience à l'école, parce que bizarrement, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est quand même, le Vaucluse, c'est un des premiers départements qui est tombé dans les mains du Front National. Donc en fait, on a très très vite senti qu'on était en France. À l'école, on nous a très très bien fait comprendre qu'ici, c'était pas chez nous. C'était ça le terme. Et moi, en fait, le truc, c'est que je suis la première vague d'immigration, c'est-à-dire que j'ai immigré moi-même. Moi, je suis née au Maroc et je suis arrivée en France, donc je me sentais encore... Par exemple, j'ai été naturalisée, j'avais 13 ou 14 ans. Donc j'ai été naturalisée tard, finalement, mais parce que mes parents n'étaient pas français non plus. Donc en fait, moi, je fais partie de ceux qui sont immigrés, même à l'heure actuelle. Quand on parle d'immigrés, c'est mon cas, en fait. C'est pas mes parents, c'est moi. J'ai vite compris. Par exemple, il y a un truc à l'école qui m'avait hyper traumatisée. Je crois que c'était en première. Ma professeure d'SES, elle me demande de faire un exposé sur le Front National, qui monte donc dans le Vaucluse, et je fais mon exposé, et mes camarades de classe étaient morts de rire. Par le fait que ce soit une rebeu qui présente la montée du Front National. Genre, à chaque fois que je disais Marine Le Pen, ils étaient morts de rire. Et après, à la fin de l'exposé, ils m'ont dit « Ah, mais elles veulent que tu rentres chez toi !» Mais j'ai dit « Mais vous êtes sérieux ?» Et c'était très particulier, c'était que dans mon quartier populaire, on était entre nous, mais vu que j'étais, franchement, dès le collège, j'étais la meilleure de ma classe, plus le temps passait, plus j'étais la seule rebeu finalement arabe, moi je dis rebeu mais il faut le dire arabe, dans l'éducation, je veux dire au lycée, j'étais la seule. Donc en fait ça créait ce truc de, je rentrais le soir dans mon quartier populaire et la journée je me faisais démonter parce que j'étais issue d'un quartier populaire. Par des mots, par des remarques, voilà, par un truc de... Puis même ils étaient complexés de voir, j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus, ils étaient complexés de voir que c'était moi qui étais première parce qu'en fait le français c'est pas ma langue maternelle. Par exemple, ça je l'ai raconté déjà plein de fois, mais moi je voulais faire Sciences Po. Dès que j'arrive en fait au collège, mon père il regarde un documentaire sur France 3 et il y a une jeune fille d'origine maghrébine, je crois qu'elle était algérienne en plus, et qui raconte son parcours scolaire et qui dit qu'à Sciences Po elle s'est hyper épanouie parce que voilà, elle apprend plein de choses, etc. Et moi j'étais très curieuse, je me suis dit mais je vais faire cette école. Et donc j'en parle à mes professeurs de sixième, ils me disent mais non mais c'est pas pour toi, tu vois bien où on est, tu vois bien dans quoi t'as grandi, la culture générale tu l'auras jamais, le niveau d'anglais tu l'auras jamais. En sixième, hein, on m'a directement dit c'est pas pour toi. Et bon moi je suis un peu têtue donc j'ai un peu forcé, mais pourquoi je raconte ça, c'est parce qu'en fait il y avait ce truc de me rappeler que j'étais issue de l'immigration en permanence. Et ça a duré comme ça jusqu'au lycée. C'est-à-dire j'ai eu très peu de profs. J'ai eu un prof d'histoire par là, par-ci, par-là, qui m'encourageait dans la voie de Sciences Po. Et ça a duré jusqu'en première, où mon prof de français donc, m'a dit « T'auras jamais le niveau en écrit et tu parles pas assez bien. » Je comprenais pas quand tu disais ça. « Tu parles pas assez bien pour faire Sciences Po. » Et ma vengeance, c'est que j'avais eu 20 à l'oral de français. Et mes camarades ne supportaient pas cette note-là. Parce qu'ils disaient, mais c'est pas sa langue maternelle, elle l'a appris ici. Moi, je suis arrivée en France, je parlais marocain, en fait. Jusqu'à la première année au CP, quoi, je parlais marocain. J'arrivais pas à apprendre le français, c'était impossible pour moi. Et donc, ils m'ont vu, parce que voilà, c'est une petite ville, donc on fait tous nos études ensemble. Ils m'ont connue à la maternelle, ils m'ont connue au lycée, en fait. C'est ça ce que ça signifie, en fait, de vivre dans une petite ville. Et ils comprenaient pas, ils disaient, mais c'est pas possible qu'elle, la fille issue de l'immigration, ait des meilleures notes que nous, en fait, au final. C'est ça que ça voulait dire, en fait. Et du coup, bah, c'était la fierté de mes parents, d'ailleurs, que j'ai eu 20 à l'oral de français, parce qu'ils se sont dit, bon, ben, on a bien réussi, en fait, notre chemin, si t'arrives à t'en sortir. Mais c'est ça, en fait, qui était particulier, c'est que c'était une ambiance où le Front National montait, donc il y avait des préjugés racistes qui étaient autour de nous, et alors que nous, on était renfermés sur nous-mêmes, en fait. Donc c'était un peu particulier.
Comment t'arrives, en fait, à intégrer Sciences Po? Comment t'arrives à te confronter à une autre ville, à une autre culture, à un autre monde que ta ville, en fait?
Au début, j'avais pas conscience de à quel point c'est différent. C'est-à-dire qu'au début, j'ai un côté un peu naïf en me disant je vais y arriver parce que j'ai des bonnes notes, donc je vais être intégrée facilement puisque je suis une bonne élève. Et au début, j'ai pas conscience. En fait, au début, Bourdieu m'aide à comprendre la partie sociale, mais il m'aide pas à comprendre le racisme. C'est-à-dire qu'il m'aide à comprendre pourquoi socialement, voilà, je suis issue d'un milieu populaire, voilà, mes parents sont encore ouvriers, etc. Ça, il m'aide à le comprendre, pourquoi c'est difficile, mais il m'ajoute pas la partie sexiste et la partie racisme. Et ça, quand tu le découvres frontalement, j'avais 18 ans, quand tu découvres ça frontalement, sans qu'on t'ait préparé, c'est particulièrement violent. En un an, je suis passée de ce lycée-là, qui est vraiment très mal classé, vraiment, c'est un très lycée de mauvais niveau, malheureusement. Donc je suis passée de ça, de mon quartier populaire, de la vie avec mes parents, et j'ai fait un déménagement tout bête, hein. Je suis allée à Avignon, c'est pas si loin que ça, mais à Avignon, j'ai déménagé en centre-ville. Et je suis allée dans une prépa privée pour faire Sciences Po. Donc mes parents ont déboursé. Déjà, c'était marrant juste le fait quand ma mère a appelé le lycée, donc ça s'appelait le lycée Saint-Joseph à Avignon, ma mère a appelé le lycée pour m'inscrire à la prépa. En fait, je l'avais entendu parler parce que j'étais dans une prépa publique en même temps. Et moi, je voulais mettre toutes mes chances de mon côté pour faire Sciences Po, donc j'étais inscrite à une prépa publique comme on faisait sur post-bac. Et je voyais mes camarades entre eux, mes camarades bourgeois de la prépa publique, donc il y avait des parents avocats, etc., parler entre eux d'une prépa privée qui serait apparemment meilleure. Et je les entends parler entre eux et tout. Et moi, je me dis, mais j'ai envie de la faire. Et il se trouve, j'ai eu de la chance, elle n'était pas si chère que ça, elle était à 1 300 €, qui pour une prépa Sciences Po, franchement, c'est rien, parce qu'à Paris, elles sont à 15 000, par exemple. Donc je me suis dit, ok, je vais parler avec mes parents, on va voir. Et mes parents m'ont dit, ok, ben, on te l'offre, pas de souci. Comme quoi, je leur dois quand même beaucoup dans cette histoire. Et ma mère, donc, appelle le lycée, et sauf que j'avais jamais eu d'arabe, en fait, avant moi, dans cette prépa. Parce qu'il faut aller en entendre parler, déjà, en fait. Et donc, ma mère décroche le téléphone, elle appelle, et elle dit, voilà, j'aimerais que ma fille postule pour votre prépa, etc. Il faut vous envoyer quoi? Je dis, mais madame, nous, vous savez, on prend que des très bons élèves, hein. Et ma mère, elle dit, mais ma fille, tu es très bonne élève. Oui, mais non, mais on veut pas des moyennes basses. Juste en disant mon prénom, c'est-à-dire qu'ils avaient encore pas mon dossier, mais ils étaient persuadés. Et ma mère, elle dit, mais elle a eu 20 à l'oral de français. Et c'était sa fierté de l'avoir balancé au téléphone. Et là, du coup, ils m'ont accepté. Mais ma mère, elle était choquée, en fait, que le premier préjugé, quand elle a appelé, c'est, mais on veut que des bons élèves. Bah oui, mais t'es au courant que si je suis là, si j'ai entendu parler de la prépa, c'est que potentiellement, je suis pas quelqu'un de... Enfin, je suis pas la dernière de la classe, quoi. Et voilà, et du coup, c'était le premier choc culturel et social, c'est là-bas, c'est la prépa. Parce que c'était des Parisiens qui venaient dans le sud, ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que des bourgeois parisiens qui descendent dans le sud avec toute leur... Il n'y a rien de pire que cette particularité-là des bourgeois. Et donc, du coup, voilà, là, j'ai compris, j'ai vu comment ils s'habillaient, j'ai vu leur manière de parler, et puis leur regard sur moi, c'était très violent. Et moi, j'ai toujours eu de la chance, je pense que je le dois aussi à mon travail, mais j'ai du mal à le dire, mais j'ai toujours été vraiment très bien classée dans mes prépas. Donc là, par exemple, j'étais soit première, soit deuxième. On était une classe de 60 dans la prépa privée. Et pareil, les autres ne comprenaient pas, en fait. Pour eux, c'était dans leur tête, ça pouvait pas marcher, parce que, en fait, physiquement, ben, je suis une rebeu. Pour eux, je suis même une beurette. Donc je suis maquillée, je suis habillée. Enfin, vous voyez tous les clichés qu'on a autour de la femme arabe. Et donc en plus, c'était le début de Nabila Ayem. C'était vraiment ces années-là. Donc médiatiquement, il n'y avait aucune femme rebeu qui nous représentait, qui était intelligente. Il y avait Rachida Dati, mais maintenant tout le monde l'a détestée parce que, soi-disant, elle était partie de l'autre bord. C'est ce qu'ils disaient. Mais voilà, moi, je suis arrivée à cette époque-là dans une école où la femme arabe était encore vue comme une pimbèche qui faisait de la télé-réalité et qui n'avait pas de cerveau. Donc en fait, c'était l'image qu'ils projetaient sur moi, etc. Et c'était particulier parce qu'il fallait gagner en légitimité intellectuelle. Moi, je détestais ça, en fait. Je détestais prouver que j'étais intelligente. tout ça, déjà parce que je suis une femme et parce que je comprenais pas. Je me disais, mais on peut pas avoir autant. Des gens aussi intelligents, des gens qui ont eu accès au savoir depuis leur enfance, ne peuvent pas projeter ces clichés-là sur moi. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a duré, enfin, ça a duré toute mon année. Mais moi, j'avais pas encore le recul. C'est-à-dire que je sentais que j'étais exclue, je sentais qu'ils m'invitaient pas à leurs trucs et tout. Mais j'arrivais pas encore à identifier que c'était lié au fait que j'étais rebeu. J'arrivais pas, je me suis dit peut-être qu'au début c'est, je me suis mis la faute dessus, et je l'ai fait même à Sciences Po Grenoble, c'est-à-dire je me disais non mais c'est moi, je dois avoir un caractère improbable alors que je suis la meuf la plus conciliante, franchement je crois que c'est, si j'ai une qualité c'est celle-ci, c'est-à-dire que je m'adapte facilement aux gens, je suis pas du tout quelqu'un de nerveux, je suis pas du tout quelqu'un de méchant, et je me dis mais j'ai dû faire un truc qui fait qu'on m'aime pas, c'est pas normal qu'entre eux, voilà, il y a ce truc de parler de moi tout le temps, toujours, il y avait un truc de toujours vouloir savoir ma vie sexuelle. Ils me posaient des questions là-dessus, tout le temps. Alors est-ce que t'as déjà couché avec un homme blanc, est-ce que t'as, enfin, moi je dis mais c'est pas possible qu'on rentre dans mon intimité comme ça, on se connaît pas. Et moi je trouvais ça d'une violence d'oser me poser la question. Donc bref, voilà. Donc là, c'était le premier choc social, c'était ça. Et donc après, j'ai réussi le concours de Sciences Po. Je suis partie à Sciences Po Grenoble. Là, l'éloignement, il a été plus brutal parce qu'en fait, à Avignon, limite, je pouvais rentrer chez moi le week-end. J'avais mes parents, mes potes d'enfance. Et en fait, je me concentrais sur la prépa en semaine. C'est-à-dire que je travaillais comme une ouf dans la prépa. Je rentrais chez moi, je retrouvais mon milieu, voilà. Et c'est bon, ça m'apaisait, quoi. Sauf que Grenoble, il n'y avait plus ça. Quand je suis arrivée à Sciences Po Grenoble, il n'y avait plus le recul de « je peux me réfugier chez mes parents ».
On observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités économiques. Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capital culturel, c'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille, pas seulement des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissance, d'expression, des savoir-faire, des savoirs, des techniques, des modes, des manières de travailler, par exemple. C'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. Alors, d'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les donner.
Et donc je suis arrivée à Sciences Po Grenoble avec, moi je dis mon caractère de banlieusarde parce qu'en fait j'ai gardé totalement comment on voit les banlieusards, c'est-à-dire je parle fort, je parle vite, je suis pas une meuf discrète et je pense que ça déjà c'est un gros défaut, je mets des guillemets, vous les voyez pas mais je mets des guillemets avec mes doigts, mais je pense que c'est un gros défaut de ne pas être une meuf discrète, c'est-à-dire d'être une meuf qui a des convictions, qui parle, qui lève la main en classe quand elle a des choses à dire, j'ai monté une association. Enfin, j'étais pas du tout quelqu'un d'effacé. Et donc c'est pareil, j'arrive dans une classe, on devait être 120 élèves. On était trois issus de l'immigration. Moi j'étais vraiment de l'immigration moi-même. Et donc j'arrive dans cette école en ne changeant pas du tout. Moi j'ai jamais voulu faire l'adaptation physique, c'est-à-dire ça me suis calmée un peu sur le maquillage, mais j'étais tout le temps hyper méga maquillée. Mais j'en ai aucune honte, hein. Franchement, si c'était à refaire, je resterais la même. Hein. Mais voilà, j'arrivais maquillée en talons, etc. Mais parce que c'était, je pense qu'à l'époque je me cherchais aussi dans ma féminité. Voilà, je me suis un peu calmée sur les talons hauts, mais j'arrivais comme ça. Et moi en fait, je voulais, vu que j'avais intériorisé le cliché de beurette qu'ils avaient de moi, je me suis dit mais on va jouer à fond sur la coquetterie et en même temps je vais les démonter en cours. Vraiment j'étais dans la logique de mais rester sur mon physique, il n'y a pas de souci, on verra à la fin des partiels qui vaut quoi. Et du coup dès le début, ça c'est aussi un truc que j'ai beaucoup raconté mais qui me suivra je pense toute ma vie, le premier jour j'arrivais à Sciences Po, j'avais acheté, je me rappelle, ça c'était parce que j'avais conscience que j'avais pas les bons habits et j'étais allée chez Tommy Hilfiger la veille. Et je m'étais acheté une chemise bleue Tommy Hilfiger, un pantalon Tommy Hilfiger et des chaussures. Eux, ils savaient pas que j'avais acheté ça pour la rentrée. Vous savez, le truc qu'on garde quand on est enfant, nos parents nous achètent des habits pour la rentrée, on est content. Mais moi, je les gardais. En fait, quand je suis arrivée à Sciences Po, je me suis dit, mes habits, ça va pas convenir. Je mettais des blazers colorés et tout. Mais j'arrivais pas à associer ça à Sciences Po. Et moi, j'avais une image d'eux, vous savez, avec le pull autour des. Vraiment, j'avais cette image-là et je les voyais tous avec des Tommy Hilfiger en prépa. Donc, je me suis dit, je vais aller acheter. Donc, j'ai acheté une chemise, un pantalon Tommy Hilfiger et tout. Je sais pas si on a le droit de faire de la pub. coupe dans un podcast, mais j'espère pas, on va avoir un petit pourcentage sur les prochaines.
T'es une petite gars, vous sponsorisez, on est là.
C'est le moment.
Je suis arrivée, je me suis adaptée, j'ai adapté mon style avec ce que j'avais en tête d'eux. Et donc je m'assois, je récupère mon pull Sciences Po, je récupère ma carte d'étudiante, j'étais trop contente, j'avais enfin réussi mon objectif de faire Sciences Po. Et là, je m'assois à table à midi, je prends mon... on avait pris hier un espèce de self, je prends mon plateau, je m'assois comme ça. Et puis là, il y a un mec qui était avec moi en prépa, qui me dit, Nesrine, t'as pris la place de ma sœur. Et il me le dit, on est 15 quoi à table. Il y avait toute la nouvelle bande, j'étais la seule rebeu dans la bande, tu vois, mais on est assis, il me dit ça devant tout le monde, et il me dit, Nesrine, t'as pris la place de ma sœur. Et moi, je dis, putain, ça commence. Il dit, le premier jour, il va falloir qu'encore que je défende mon truc de... je suis ici, mais je suis intelligente. Donc je m'assois, je dis rien. Et après, je lui dis, la conversation passe un peu, je lui dis, mais attends, pourquoi tu m'as dit ça tout à l'heure, ça voulait dire quoi? Et là, il dit, elle a passé le concours, elle l'a pas eu, donc c'est toi qui as pris sa place. Et moi, là, par la sidération de l'humiliation publique, je sais pas quoi dire. Et je le regarde juste en mode, je suis décontenancée. Je baisse pas, en fait, je le challenge du regard, mais j'arrive pas à répondre, je sais pas quoi répondre à ça, en fait. Parce que dans un sens, il a raison. En fait, c'est ça qui est douloureux, c'est que dans un sens, il a raison, ces écoles, elles sont pas faites pour nous. C'est-à-dire que j'ai ma place, mais elles sont pas pensées pour des gens issus de milieux populaires et l'immigration. Donc, dans un sens, il a raison, en fait, j'ai pris la place de quelqu'un parce que, de base, elles étaient pas faites pour nous. Mais ça veut pas dire que je suis pas légitime. Ça veut juste dire que, en fait, on leur a mis ça en tête depuis qu'ils sont petits, en fait. Donc, lui, il dit juste, sincèrement, il a pas conscience que ça me blesse. À ce moment-là, il a pas du tout conscience que c'est une blessure.
Et il s'en fout.
Ouais, il s'en fout aussi, totalement, clairement. Mais il le dit juste naïvement, tu sais, comme ça. Sauf que moi, c'est une phrase que on est à combien de temps là? Ça fait 8 ans que je suis sortie de Sciences Po. Enfin, ça fait 8 ans de cette première année-là. Ben, je m'en rappelle encore. Et je m'en rappellerai encore dans 10 ans. Et c'est peut-être une phrase que je vais dire à mes enfants quand je vais leur dire « Faites gaffe, on va vous dire ça, mais il faut que vous vous protégiez, que vous ayez conscience qu'il a tort. » Et tu vois, c'est un truc qui va rester dans ma vie et qui, à mon avis, ça nourrit mon syndrome d'imposteur éternellement. Comme ma prof d'anglais qui m'avait dit, t'auras jamais le niveau en anglais, jusqu'à ce que mon diplôme de Sciences Po, je l'ai obtenu en 2018, la dernière épreuve, c'était l'anglais. Je disais à ma mère, je vais pas valider mon diplôme à cause de l'anglais parce que je suis nulle en anglais. Elle me dit, mais t'es bête ou quoi? T'as fait 8 ans de Sciences Po, t'es partie vivre à l'étranger, t'as écrit des articles en anglais. Je dis, mais ouais, mais j'ai pas le niveau. Et cette phrase, elle vient d'où? Elle vient juste de ce qu'on m'a dit, en fait, en terminale, en fait. Donc c'est atroce. Comme ces petites remarques insidieuses, en fait, eux, ils se rendent pas compte de ce que ça signifie pour nous. Mais nous, elle nourrit un syndrome de l'imposteur qui est destructeur, parce que du coup, tu perds en créativité, tu perds en volonté de faire, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était mon arrivée à Sciences Po Grenoble, dans la joie et la bonne humeur, parce qu'ensuite, maintenant, j'en parle avec le sourire, mais à l'époque, c'était vraiment atroce, parce qu'après, j'ai vécu du harcèlement scolaire, pur et simple. Et c'est parti d'un truc tellement bête, c'est qu'une fois, j'avais un jean, et on a vu, tu sais, j'avais des culottes Victoria's Secret. Ils ont vu la bande dépasser. Tu sais, la bande, les trucs sportifs, là. Ils ont vu ça, ils ont pris en photo. Et ils l'ont fait tourner entre eux. Regardez comme elle est habillée, elle. Mais ça arrive à tout le monde qu'un jour, on voit ta culotte dépasser ou ton boxer. Enfin, c'est un détail de merde, quoi. Et donc, c'est comme ça, ils ont commencé à prendre en photo. Ils me prenaient en photo. Il y avait un groupe de mecs qui me prenaient en photo, qui s'envoyaient des photos entre eux, de ma promo. Et pareil, un jour, j'arrive en survêtement, mais parce que j'étais au sport, mais ça c'est le truc que je déteste le plus. J'étais en survêtement d'une marque que je ne vais pas citer, mais j'étais en survêtement, je rentre à l'école, et pareil, mais c'est le même mec, mais je ne me suis jamais rendu compte, c'est le même mec qui m'avait fait la remarque le premier jour, qui devant ma classe de télé, donc c'était une classe de 20 personnes, me dit « Wesh, la racaille, ça va ?» Je dis « Mais t'es sérieux j'arrive du sport, j'ai pas le droit de mettre de survêt, j'ai pas le droit de mettre de talons, je mets quoi au final, tu vois ?» Et toute la durée du cours, il me parle en « Wesh, wesh ». Et moi, j'étais là, je dis, mais c'est pas possible. Et c'était très, franchement, c'était très, très, très déstabilisant. C'était très déstabilisant. Et cette année-là, il m'avait élu rookie. Je sais pas si vous savez ce que c'est rookie, mais c'est bisu. En fait, il m'avait appelé rookie, ce qui signifie bisu. Donc, ça veut dire bisu de l'année. En gros, la personne qu'on a le plus bisuté cette année, quoi. Et ils étaient fiers de me donner un titre. Donc, j'ai eu le titre de bisu à Sciences Po Grenoble la première année, alors que je n'allais pas aux soirées. Enfin, j'étais pas du tout intégrée dans l'école, mais en fait, ils me connaissaient tous, je les connaissais pas. Mais ils me connaissaient tous parce qu'ils m'avaient tous fustigé en fait en secret. Moi, j'avais pas idée du nombre de personnes qui me détestaient dans cette école. J'avais parlé à personne. C'est-à-dire que moi, je faisais. J'étais encore dans ce délire-là de faire mon taf. Moi, toute ma vie, j'ai fait ça. Je me concentrais sur mes études et je faisais pas attention aux gens. Donc, j'avais pas de potes. Je faisais pas de sortie de machin. J'avais pas de potes. J'en avais rien à faire à l'époque, clairement. Je me concentrais. Moi, je voulais être journaliste. Donc, je dis, ok, tu vas te concentrer sur tes cours et eux, tu t'en fous, quoi. Et donc ça a été encore pire quand après j'ai monté, je suis allée à Istanbul pendant un an, j'ai fait un Erasmus, tout s'est très bien passé. Donc je suis revenue en Sciences Po Grenoble en troisième année et je monte une asso qui existe toujours, c'est ma plus grande fierté, parce qu'elle a quand même 6 ans, va avoir 6 ans, qui s'appelle Sciences Po Grenoble Monde Arabe. Et le but, c'était de parler de les révolutions arabes, de la Syrie, etc. De montrer que justement le mot arabe, c'était le, du Maroc à l'Arabie Saoudite et que ça voulait pas dire la même chose. En fait, c'était de montrer la diversité de ce qu'ils appellent eux arabes. Donc voilà, il y avait je faisais des conférences, j'ai fait venir des journalistes syriens, c'était incroyable, qui nous racontaient comment ils avaient filmé la révolution avec leur téléphone, etc. Et quand je monte l'asso, on me dit, voilà, encore une rebeu qui monte une asso sur les rebeux, encore une meuf qui veut se faire remarquer. Mais on n'a pas le droit, on a le droit de rien faire, en fait, concrètement. Et cette année-là, je passe, en fait, ils m'avaient tellement mis les nerfs, je me sentais tellement exclue de cette école, que je me suis dit, ok, ils pensent que je suis, avec tout ce que j'ai fait, ils ne me considèrent pas comme intelligente, je vais faire une chose qu'il n'y a aucun d'entre eux qui arrive à faire, ou alors très peu, c'est faire Sciences Po Paris. Parce qu'en fait, Sciences Po Paris, c'est le graal absolu des Sciences Po. C'est vraiment le prestigieux, tu vois, là où il y a les présidents sont sortis, etc. Et au début, moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, je vais pas l'avoir. Je me dis, ok, je le tente. Je le tente, je le prépare comme une ouf. Tous les samedis, je me fais des concours blancs pendant 6 mois toute seule. Et je me dis, je le tente. Je vais le faire. Et en fait, j'avais pris le recul sur tout ce qu'il m'avait dit comme phrase. Je m'étais hyper renseignée sur le sexisme, le racisme, l'intersectionnalité. J'avais vraiment fait mon parcours sociologique dans ma tête. J'avais, en fait, je m'étais sortie de mon histoire pour comprendre ce que... En fait, j'avais compris que c'est pas moi qui détestais, que c'était pas Nesrine le problème, parce que Nesrine n'a fait de mal à personne, que c'était vraiment ce que je renvoyais. Donc voilà, tout ce que j'ai, toutes mes études en sociologie, tout ce que j'ai appris, et Sciences Po m'a aidé d'ailleurs là-dessus, m'a aidé à comprendre. Et donc j'avais pris le recul. Et donc je passe Sciences Po Paris et je l'ai. Je suis admissible à Sciences Po et je suis admise. Ensuite, moi je suis la meuf la plus heureuse de la Terre parce que ça y est, je vais partir de Grenoble, je vais aller à Paris et je quitte ce climat vraiment nauséabond. Et ce qui se passe, mais jusqu'à la fin, ils n'ont pas voulu lâcher le steak. Quand j'ai le concours de Sciences Po, je sors de ma salle de cours, j'étais en cours, je reçois un mail avec la liste des admis, je vois mon nom. Moi, je dis à mon prof, excusez-moi, je peux sortir, parce que je venais d'apprendre que je sors, et là, j'explose de joie et tout, je suis trop contente. Et il y a un mec qui me dit, ouais, tu l'as eu parce que t'es rebeu, t'es jolie, que tu viens d'une cité. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais à chaque fois que je vais réussir un truc dans ma vie, il y a quelqu'un qui va essayer de me rappeler que c'est parce que je suis rebeu. Je lui ai dit, non, en fait, le concours est anonyme. Donc, en fait, c'est un concours écrit anonyme. Comment mon physique, je reviens en compte, comment mes origines rentrent en compte, c'est anonyme, purement anonyme. Ce jour-là, ça m'a encore... Je me suis dit, mais toute ma vie, vous allez me faire chier, en fait, avec cette histoire de rebeu issu de quartier, quoi. Surtout qu'en fait, dans leur bouche, ça sonne pas comme une qualité. Alors que moi, pour moi, c'en est une. Eux, ils le disent en mode, tu devrais avoir honte, en fait. Et bref, finalement, j'arrive à Sciences Po Paris, et ça se passe beaucoup mieux, parce que voilà, c'est Paris, quoi. Donc, même s'il y a des biais racistes et des biais sexistes, c'est Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Blancs, ils ont l'habitude. Voilà, ça reste encore clivé, effectivement. Il y a le clivage banlieue populaire et Paris-Centre, parce que moi, j'étais en 6e, donc j'étais dans le Paris littéraire, voilà, Camus et Sartre. Mais l'école est plus ouverte socialement et l'école est plus ouverte ethniquement. Je suis contre tous les racismes, c'est-à-dire que je suis pas là juste n'attaquez pas les Arabes. C'est n'attaquez pas les Arabes, n'attaquez pas les Noirs, n'attaquez pas les Asiatiques. Je suis vraiment dans une logique de, pour moi, un racisme, ça vaut tous les racismes.
J'ai rien à prouver. Ce soir, j'oublie tout. Cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir, j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour. Alors, je m'en tape de vos discours. Derrière le pont, normalement, je cours.
J'avais une question par rapport à Sciences Po. Est-ce que. Ces questions, parce que tu dis que Sciences Po t'a aidé au niveau du sexisme, ouais. Du racisme et tout ça, l'intersectionnalité. Est-ce que c'est des questions qui sont évoquées dans les cours? Il y a des profs, il y a des articles mis en ligne ou
pas? Non, 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 c'est très récent. Là, Sciences Po Grenoble, en fait, il y a un événement qui s'appelle...
Paris, je suis de Paris.
Il y a le CRIT, je ne sais pas si vous connaissez, en gros, c'est la plus grande beuverie des Sciences Po. En gros, tous les Sciences Po se retrouvent pendant un week-end dans une ville, mais tous les Sciences Po, et c'est une compétition sportive. Une compétition. Je remets des guillemets avec mes doigts, mais là je les mets, ils sont énormes. Là c'est la taille de Paris, les guillemets. Et en fait, ils se sont rendus compte, les administrations, qu'il y avait des débordements, des attouchements sexuels, des agressions sexuelles. Parce qu'en fait, ah oui, il y a un jeu, ça c'est le jeu le plus formidable sur Terre. Ça s'appelle le grand chelem et le petit chelem. Ça consiste à embrasser le plus de filles possible la soirée ou de coucher avec le plus de filles la soirée. C'est des challenges que se donnent entre les hommes dans les équipes sportives. Vous vous doutez bien que ça aboutit à des agressions sexuelles. Et c'est en grand nombre, on est un millier, même un peu plus. Donc, tu vois des meufs qui sont complètement bourrées avec des mecs qui s'approchent d'elles pour les embrasser, pour machin. En fait, les administrations des Sciences Po se sont rendues compte du crit et de ce que ça signifie. Et Sciences Po Grenoble a fait une semaine maintenant qui s'appelle « Luttons contre les discriminations sociales, etc. et ethniques ». Et j'y suis allée cette année. J'ai participé à une conférence justement pour sensibiliser là-dessus. Mais c'est récent, quoi. Ça date d'il y a 2 ans et le mal est fait sur les promos passés, quoi.
Ouais, est-ce qu'ils se sont rendus compte ou est-ce qu'ils se sont juste rendus compte que ça ne passerait plus, qu'ils pouvaient plus se permettre?
Je pense que c'est ça. En fait, on le doit beaucoup à un étudiant qui est gay et qui a fait son coming out, qui était au conseil d'administration de l'école, qui a fait son coming out. Moi, j'ai adoré comment il l'a fait. Il l'a fait avec tellement de classe sur les réseaux sociaux. Enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire son coming out, mais lui, ça avait un poids politique. C'est-à-dire qu'il voulait influer en même temps sur l'école. C'était au-delà de sa propre personne. De dire, en fait, avec mon regard de gay, j'ai pas du tout apprécié toutes les remarques homophobes dans le CRID, j'ai pas du tout apprécié les blagues sur tapette, PD, parce que c'était les insultes qui tournaient, en fait, dans les équipes sportives, quoi. Et j'ai trouvé ça très important, ce qu'il a fait, et c'est lui qui a initié, en fait. C'est lui qui a dit, il y a de l'homophobie au CRID, il y a du racisme. Lui, il était au conseil d'administration, donc venez, on fait bouger les choses. Mais après, ça, effectivement, la majorité des étudiants bourgeois blancs n'ont pas compris pourquoi c'était blessant, quoi. Des hommes, surtout. Il y avait un sexisme ambiant et un racisme ambiant, en fait. Il y avait, par exemple, tous ceux qui étaient... Moi, j'étais dans le handball avant de faire l'équipe des pom-poms. J'étais dans l'équipe du handball. Et il fallait absolument jouer sur notre côté rebeu, quoi. Les mecs dans les autres équipes qui étaient rebeux, ben, c'était Tatata, le rebeu, leur surnom. Chicha, tatata, voilà, c'était ça, en fait. C'était...
Il fallait en être complice pour s'intégrer.
Ouais, moi j'avais l'impression que c'était. Ouais.
De l'auto-fétichisation.
Ouais, exactement.
Pour que eux ne se sentent pas coupables aussi d'une certaine manière.
Je pense,
manière.
Je pense.
Que leur racisme passe crème, du coup.
C'est ça, je pense. Et encore, les mecs rebeux, moi dans ma classe, dans mon école, ils étaient quand même beaucoup plus intégrés que les femmes. Parce que le mythe du mec rebeu, ça reste quand même la force. Voilà, donc je pense qu'il y avait ces trucs de force et de... Puis c'est des hommes.
Voilà.
Voilà, c'est des hommes hétérosexuels, ouais. Pour être plus précis. Donc oui, c'est quand même plus facile de... Et puis moi, ils ont contribué aussi à ma fétichisation, parce que le mot beurette, il est prononcé par tout le monde, que ce soit aussi bien par des hommes blancs que par des hommes arabes. Et je pense que même à l'heure d'aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte de ce que ça signifie. C'est-à-dire que là, je vais parler, s'il y en a qui écoutent, ils vont me dire « Ouais, mais c'était de l'humour, on rigolait entre nous. » Non. C'est pas de l'humour si la personne en face elle est atteinte. Moi, j'ai fait une dépression, en fait. Moi, pendant un an à Sciences Po Grenoble, la première année, j'ai pris 15 kilos. Je sortais pas de chez moi, je mangeais des pitchs en dîner et en repas de midi. Enfin, j'étais en dépression parce que je me suis dit, mais je vais jamais réussir dans ma vie avec tous ces préjugés-là, quoi. J'ai pas le droit d'être une femme, j'ai pas le droit d'être arabe. Et puis, je peux pas changer qui je suis, c'est ce que je suis, quoi. Et ça s'est passé même dans mon équipe de handball. C'est-à-dire que moi, de base, je suis très sportive. J'étais jouée jusqu'en National 2 au handball, donc j'ai un bon niveau. Et quand j'arrive en Sciences Po, je me dis, mais c'est pas possible, comment t'as perdu ta capacité au handball? En fait, je me rends compte, c'est parce qu'en face, elles m'aiment pas. Et on le sent, quand les gens nous aiment pas, quand les gens vous rejettent, sans qu'ils parlent, juste s'ils parlent entre eux, vous ressentez l'ambiance, vous ressentez le rejet.
Et ça vous limite.
Et voilà, et ça limite. Et moi, ben, j'étais tout le temps sur le banc, j'arrivais pas à m'épanouir sportivement.
Que les jeux aussi, elles devaient pas t'inclure.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis à la fin de l'année, elles sont venues me voir parce qu'on est parti faire un championnat un peu loin de Grenoble, donc on a passé du temps ensemble, et à la fin de cet événement, elle me parlait, elle me disait, mais en fait, t'es trop cool comme fille, mais ça fait un an qu'on est ensemble, les gars, ça fait un an qu'on est ensemble, et je te jure, et c'est le mais en fait, elle me dit, ouais, mais en fait, t'es trop cool comme fille, on peut rigoler avec toi et tout, mais je dis, mais vous êtes sérieux, ça fait un an, vous connaissez, et puis quand elle te découvre, elle te dit, mais en fait, t'es normale, en fait,
t'es humaine,
ouais, c'est ça, en fait, cette phrase-là m'avait...
Épiphanie. Oh waouh!
Ouais, ah ouais, mais t'es cool! Mais non, mais sérieusement! Et le plus douloureux, c'est quand j'ai fait une vidéo brute où justement je parlais de mon parcours, qui a super bien marché, etc. J'ai reçu des messages de ces gens-là. J'ai reçu des messages de personnes qui m'avaient harcelé. Alors il y a des personnes qui se sont excusées. Des personnes qui m'ont dit, t'as subi vraiment des choses inhumaines, enfin, qui sont pas normales de se moquer de quelqu'un comme ça derrière son dos. Et puis il y a celles qui m'ont dit, de l'équipe de handball, mais t'as pas honte de mentir sur la vie de tes parents pour réussir. C'est-à-dire qu'elles ont cru que j'étais pas... En fait, pour elles, j'étais tellement coquette, etc., que je pouvais pas être pauvre. Donc elles m'ont dit, mais t'as pas honte d'avoir inventé que tes parents étaient ouvriers, tout ça pour réussir à la télé. En fait, elles s'imaginent qu'avec Brut, je suis devenue millionnaire. Je pense que là, Elle pense que là, je suis en train de faire le tour du monde à un jet ski. Non, c'est pas le cas. Donc, ouais, c'était. On dit, ouais, non, mais tu fais ça pour réussir. Mais t'as que ça à faire de parler de nos souffrances publiquement pour réussir. C'est l'inverse, en fait. Ça fait tellement flipper de se dévoiler, de dire publiquement, ma mère est femme de ménage, mon père est maçon. Alors que tu l'as pas dit toute ta vie parce que tu savais ce que ça signifie, en fait. Enfin, bref, c'était. C'était particulièrement marrant quand ils sont venus me parler en me disant « Ouais, mais tu mettais des photos de toi en vacances dans des piscines. » Mais on va tous en vacances. En fait, c'est ce que... On l'a eu, là, avec le débat sur le Crous, tout ça. Mm. Ils sont allés chercher des photos de filles en vacances. Mais heureusement qu'on se paye des vacances. Enfin, on a pas le droit. Nous, c'est bon, on est pauvres. On doit rester pauvres toute notre vie. Sinon, on n'a pas de légitimité à parler de la pauvreté. Mais moi, je trouve ça incroyablement violent, en fait. Parce que moi, effectivement, j'ai visité une vingtaine de pays. Mais pour ça, j'ai été caissière à Leclerc, caissière à Intermarché, j'ai été bouchère, animatrice. Enfin, voilà, je me suis payée mes vacances toute seule. J'ai même pas à me justifier là-dessus. Et c'est incroyable que quand on veut décrédibiliser ma parole, on me dise « Non mais attends, la meuf, elle était en Thaïlande il y a un an. » Bah ouais, et alors ? Enfin, j'ai pas de... Ça veut rien dire.
Ça enlève rien en violence structurelle.
Mais ça enlève surtout rien en fait que mes parents, ils sont encore ouvriers. C'est-à-dire, je suis pas en train de parler dans un palais déconnecté de ça. Quand je déchange chez mes parents dans le sud, ça a pas bougé. Ils ont quitté le quartier populaire, mais ils habitent dans la même ville. Mais ils habitent dans une petite maison, ils sont toujours locataires. Mon papa, il est en train toujours de se casser le dos avec des parpaings. Ça a pas changé. Donc, ma parole, elle est toujours légitime pour parler de ces gens-là. Surtout que mes cousins sont encore dans ce quartier populaire et ils font partie de la vague qu'on envoie en bac pro, machin, BEP, machin. Voilà, parce que c'est des mecs et parce qu'on considère qu'ils n'arriveraient pas à s'intégrer dans le système scolaire. Donc moi, je trouve ça violent quand on te dit encore, quand tu parles de tes souffrances, parce que moi, pour moi, nos discours, ils sont politiques, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en parler de l'intime, on est obligé de parler de nos souffrances. Parce que ça explique le fonctionnement sociétal. Et quand tu parles de tes souffrances, de ce que tu as vécu, quand tu dis « Ouais, moi, tu fais ça pour être connu », mais c'est ainsi une gloire d'être connu pour tes souffrances. Enfin, c'est un truc que... Moi, je trouve ça au contraire. Je trouve que c'est... publiquement, ça, c'est fort de le faire. Et on le fait de plus en plus, et tant mieux. Moi, c'est pour ça que j'adore Twitter. Hein. Parce que, voilà, on donne la parole à des gens comme nous, noirs, arabes, asiatiques, qui parlent de tout ça. Et là, on se rend compte que c'est politique. Et c'est ce qui s'est passé avec la vidéo brute. En fait, moi, au début, j'avais honte de la faire. J'avais peur aussi, parce que je me suis dit, j'affiche quand même beaucoup. Mes parents, j'ai toujours voulu un peu les protéger. Et au final, la vidéo, là, je crois qu'elle a 10 millions de vues. Et en fait, je reçois, là encore, aujourd'hui, là, si j'ouvre mon téléphone, j'ai encore au moins 10 messages de gens qui me disent « J'ai vécu ce que t'as vécu. Merci d'en parler parce que t'as mis des mots sur ce que moi, j'ai ressenti aussi. » Là, ça prend du sens, en fait, nos paroles. Et on comprend pourquoi c'est important de le dire. Parce qu'on parle, en fait, on parle pas à la place d'eux, mais notre parole, elle résonne dans plusieurs personnes. Et si d'autres personnes se sentent représentées à travers ton parcours, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que politiquement, c'est quelque chose. C'est un problème, voilà, comme tu disais tout à l'heure, structurel, en fait. C'est un problème global.
Pour moi, tu incarnes vraiment, en fait, ce qu'on appelle une transfuge de classe.
Totalement.
Et quand tu dis retourner chez tes parents, est-ce que tu sens ce décalage ou pas du tout? Comment tu te sens, du coup, dans ta sphère familiale?
Ben, c'est ce que... J'ai l'impression que les transfuges, on ne sera plus jamais à notre place nulle part. Parce qu'on sera... Moi, je ne serai plus jamais populaire. Enfin, même si je tombe dans la précarité, je ne serai pas populaire au sens culture populaire dans un quartier, etc. Et je ne serai maintenant jamais bourgeoise. Ça me paraît clair, en fait. Parce que voilà, ma culture, elle reste populaire. C'est-à-dire que j'ai découvert l'opéra, j'ai découvert le théâtre, mais ce n'est pas là où je vais en priorité. Moi, là où je me sens le plus à l'aise, c'est les concerts de rap. C'est mon enfance, c'est là où je me sens le mieux et je me sens moi-même. Après, avec mes parents, il y a... On en a souvent parlé en plus. Il y a vraiment un fossé qui s'est créé avec le temps par rapport à nos goûts et nos pratiques. Vraiment, il y a un fossé qui s'est créé. Déjà, quand j'ai eu Sciences Po et que je débattais avec mon père, il me disait « Oh, ça va, madame la présidente. Oh, ça va, madame Sciences Po. » Déjà, tu sens qu'il y a un truc de bon. Et après, moi, j'ai fait des choses pas bien dans le sens où, par rapport à eux, je veux dire, j'ai essayé de les changer. Et ça, il n'y a rien de pire qu'essayer de changer ses parents. C'est-à-dire que, en fait, quand tu rentres à Paris, tu découvres les appartements parisiens, t'as envie de changer la déco de chez tes parents. Tu dis, ouais, mais c'est trop coloré chez vous, puis cette couverture du bled, là. T'as un truc de vouloir être plus raffiné, parce que être plus raffiné, c'est juste socialement plus valorisé, en fait, tout simplement. Donc j'ai essayé de changer leur alimentation, j'ai essayé de changer la déco de la maison. J'ai pas essayé de changer leurs paroles, c'est encore ça, je les ai respectés, parce qu'en fait, j'ai de la chance, c'est que j'ai quand même des parents hyper intelligents. Enfin, je pense que ça explique pourquoi j'ai fait un parcours à Sciences Po, c'est que mon père, il a une culture générale incroyable sur le Moyen-Orient, ma mère, elle lit énormément de livres, elle m'a transmis ça, en fait. En fait, ils ont été ouvriers par défaut, j'ai envie de te dire. C'est parce qu'ils sont arrivés trop tard en France et ils n'avaient pas le temps de refaire des études et il fallait juste nourrir ma bouche, en fait. Donc, s'il y a un fossé qui s'est créé, des fois, j'en ai eu très honte, je me suis souvent excusée. C'est-à-dire, des fois, j'allais loin dans mes mots. Je les insultais pas, mais je leur disais, mais c'est pas normal, vous vous rendez pas compte qu'on est pauvre. Parce qu'en fait, moi, j'en découvrais que j'étais pauvre. Et il fallait que je leur explique. Combien de fois je me suis assise dans la cuisine avec ma mère et je lui ai dit, écoute, j'ai découvert Pierre Bourdieu. Ce qu'on fait, là, ça veut dire qu'on est pauvre. Il va falloir qu'on change ça pour ne plus être pauvre. Et c'est tellement particulier parce que ma mère me dit, mais regarde, quand on vient à Paris avec toi, on va au Louvre. Et en fait, c'est ça que je me rends pas compte, c'est que moi, mes parents, en même temps, ils sont dans Bourdieu, mais ils sont au-delà de Bourdieu. C'est-à-dire que mes parents, c'est des ouvriers, mais ils adorent aller dans des musées. Mon père, tu le mets devant un tableau de la Renaissance, il te le décrit, il te l'explique mieux que personne. Et c'est très particulier, tu vois, d'être ouvrier financièrement et d'être culturellement en même temps très ouverte sur le monde. Et moi, j'expliquais à ma mère, vraiment, je me cassais la tête à dire, non, mais regarde, ça, cette manière de manger là, ça veut dire qu'on est populaire. Ce truc, ma mère me dit, mais tu veux qu'on en fasse quoi de ton information? Et alors? Et moi, en plus, j'essayais de lui dire, mais ça veut pas, c'est pas une insulte, pauvre. C'est plus une catégorie sociale. Et moi, j'ai comme une débile dans ma cuisine, j'étais là en train de lui expliquer mes cours de sociaux. Et parce que j'essayais de lui expliquer pourquoi je changeais, en fait. Je voulais qu'elle... Mais en même temps, c'est un changement qu'on vit tout seul. Et avec le temps, on comprend qu'il n'y a personne qui peut nous comprendre, si ce n'est des gens qui ont été transfuges de classe eux-mêmes.
C'est-à-dire qu'il y a une coupure qui passe par moi, c'est-à-dire qui passe en moi. J'aimais tout ce qu'aimaient mes parents. C'est-à-dire, moi, j'aimais aussi bien lire Confidence, j'aimais lire les feuilletons. Tout cela me plaisait. Et à un moment, par l'école, on m'a appris que c'était de la... Bon, tout cela, c'était Pecno. Et donc, moi, je m'étais séparée de moi-même en même temps que j'étais séparée de mes parents. C'est comme ça. C'est les effets de... C'est les effets de l'ascension sociale qu'il y a dans tout, enfin, qu'on rencontre un peu partout. Et il y a un ancien moi et un nouveau moi. Et je crois que c'est la faute. C'était ni la faute de mes parents, je ne vais pas dire si c'était ma faute, mais enfin, c'est comme ça.
En fait, c'est juste de vouloir le meilleur pour ses parents, je pense, et d'avoir conscience que ce qui est valorisé, ce qui est appelé comme meilleur, c'est la culture bourgeoise, le raffinement, là, 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 là. Et maintenant, je suis dans la démarche inverse. Maintenant que je suis sortie de système Sciences Po, maintenant que j'ai totalement accepté ma personnalité, maintenant je suis... Non, restons nous-mêmes jusqu'au bout, en fait. J'ai pas envie de... Par exemple, mes goûts, j'ai pas envie que mon amour pour le rap change, parce que ça veut pas... Au début, j'en avais honte. Moi, je suis une grande fan de Jul. Mais là, je t'en veux que je le dise à l'oral comme ça. Mais il m'a fallu des années pour le dire à Paris, déjà. Parce que, en fait, c'est ma culture. C'est le Sud. C'est la musique du Sud, la musique qu'on écoute en voiture quand on marche, enfin, quand on roule au bord de la mer. Voilà, c'est ça. Et puis moi, ce que je pense que si je suis fan de lui aussi, c'est parce qu'il dégage le truc de... Ben, méprisez-moi, je m'en fiche, en fait, je suis avec mes claquettes et mes chaussettes, je fais ma musique dans ma chambre, j'ai pas changé, je suis encore dans mon quartier, je suis millionnaire. J'aime bien ce truc-là de réussir, mais on reste un pied à la maison, en fait, et on renie jamais les siens. Si nous, qui avons accès maintenant aux médias, qui on donne la parole dans des micros, on décrédibilise et on tombe dans le mépris de classe, pour moi, c'est encore plus violent pour eux, en fait, parce que nous, on fait partie... Eux, ils nous voient comme un exemple, donc on peut pas se détacher d'eux. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, j'essaie... Maintenant, je suis vraiment dans la logique de je veux être fière de ça et je veux au contraire que ça soit accepté tel quel. C'est pour ça que je dis que la culture générale, le hip-hop, ça fait partie de la culture générale, le rap, ça fait partie de la culture générale, la culture afro, ça fait partie de la culture... Enfin voilà, pour moi, c'est important maintenant de vraiment ancrer ça dans les têtes, quoi.
Ouais, et en plus, t'en es d'autant plus riche, puisque si t'accèdes avec ce capital symbolique, t'accéderas sans doute à un capital économique beaucoup plus important. Et si tu gardes ta culture d'origine et toute cette notion que t'avais enfant... Eh ben, t'es encore plus riche que les bourgeois qui ne connaissent que leur propre milieu.
Exactement, c'est ça. C'est que nous, on est des chevaux à bascule. À chaque fois, on peut s'adapter à tous les milieux sociaux, quoi. Moi, en tant que journaliste, déjà pour mon métier, je trouve que c'est une richesse incroyable. Parce que ça veut dire que j'ai fait des reportages sur l'Aïd en banlieue et je suis bien accueillie parce qu'en fait, c'est chez moi. Et puis, je fais un député à l'Assemblée nationale, j'ai fait Sciences Po, donc je sais ce qu'il dit, en fait. Je connais le fonctionnement des lois. Donc, ça m'apporte une richesse incroyable. Je peux parler à tellement plus de gens. Je peux parler à tellement plus de gens que si j'étais issue que d'une classe sociale, en fait. Ça m'ouvre l'esprit et c'est ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que nous, notre force, c'est qu'on les connaît, les bourgeois. On connaît leur fonctionnement. Sociologiquement, ça a été analysé. Mais nous, ils nous offrent 1 million de fantasmes sur ce qui on est. Donc moi, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça vraiment que c'est une richesse. Et surtout, comme j'ai dit dans nos métiers, dans le métier de journaliste, c'est incroyable. C'est un métier qui doit raconter le monde. S'il ne maîtrise pas tous ces aspects-là du monde, il a un point de vue biaisé dès le départ, je pense.
Ça représentait quoi pour toi le mérite et l'intégration quand tu étais enfant, ado face à tes parents et en tant qu'immigré de première génération? Et en grandissant, qu'est-ce que c'est devenu pour toi cette méritocratie, ce mythe de la méritocratie?
Il est faux. On va te cacher le début. Alors moi, je vais préciser un truc. Donc moi, je suis immigrée, première génération, mes parents aussi. Mais il faut savoir que mon grand-père maternel fait aussi partie de la vague qui est arrivée dans les années 70 pour paver les rues. Donc ils sont allés le chercher au Maroc, ils l'ont ramené en France. En fait, lui, il a fait un retour. C'est pour ça qu'on est revenu ensuite. Mais lui, il a fait ce truc-là, de venir en France aux années 70. Et en plus, il m'a raconté la dernière fois, il était sur son lit d'hôpital. Il est encore vivant, mais il était très malade. Et je sais pas pourquoi j'ai eu ce truc de « tu as jamais parlé avec lui de... » Parce que j'ai trop peur, en fait. Je sais que ce qu'ils ont vécu, c'est atroce. Je sais qu'ils ont été très mal payés et très mal vus. Et donc, je lui ai dit... je l'ai enregistré sur mon téléphone. J'ai un vocal de mon grand-père qui me raconte. Et donc, du coup, il me parle de son arrivée en France. Et en fait, il est venu paver les rues. Et il s'occupait aussi des égouts. Il fallait aussi boucher les égouts. Et il me disait, quand il y avait des blancs qui venaient travailler, ils restaient même pas une heure parce qu'ils étaient asphyxiés par l'odeur. Et nous, on avait des familles à nourrir, donc on tenait. Il faut imaginer ça, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient et qui repartaient dans l'heure parce qu'ils ne supportaient pas l'odeur. Et mon grand-père, il a subi ça pendant 10 ans. Et en fait, quand il te le raconte, tu te dis, waouh, c'est un truc de fou. Je pense que mon parcours, c'est juste une vengeance par rapport à mon grand-père. Je pense que c'est pour ça que lui, c'est la personne la plus fière de moi, c'est mon grand-père et mon père. Parce qu'en fait, pour eux, c'est une vengeance des conditions sociales dans lesquelles on les a mis, en fait. Et surtout qu'ils ont été exploités financièrement. C'est-à-dire qu'avec la dose de travail qu'ils ont fait, mon père, il construit des maisons quand même. C'est-à-dire qu'il abrite, il construit des maisons dont les gens vivent dedans, donc ils sont protégés. Et il a été payé pendant des années, il a été payé aux alentours de 1500 euros. C'est rien du tout, quoi. C'est atrocement, quand je dis 1500 euros, c'est 1500 euros brut. Hein. Je vois pas de net, ça retombe très vite après. Je trouve ça particulièrement injuste. Et moi, j'y crois pas à la méritocratie. Je pense que le système scolaire français, il est fait pour valider des savoirs sociaux. C'est-à-dire il est fait pour valider les savoirs sociaux bourgeois, la manière d'être, de parler, de se comporter bourgeoise. À l'école, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on se calque sur ce modèle-là, en fait. Parce que nous, réussir, ça signifie changer. Pour eux, ça signifie pas changer, tout simplement. Moi, pour réussir, j'ai dû changer. J'ai dû parler autrement, j'ai plus d'accent du Sud, alors que j'ai grandi quand même 18 ans dans le Sud. Enfin, j'ai conscience de ça, j'ai conscience des changements que j'ai dû opérer. Et en même temps, pour moi, c'est le prix à payer si derrière, on peut faire entendre notre voix, quoi. C'est jouer du système pour, au fond, nous-mêmes, finir par porter quelque chose de positif. Mais non, moi, j'y crois pas, la méritocratie, ça se saurait si le travail payait. Combien il y a de talents à qui on laisse pas la chance, même là je parle juste au niveau des médias, hein. Regardez enfin la moyenne d'âge et regardez à quel point ça manque cruellement de diversité, alors qu'il y a des talents, voilà, la nouvelle génération qui arrive là, moi je suis fan d'elle parce que c'est des gens qui sont sensibilisés au racisme, à l'homophobie, au sexisme, et c'est vers ça que j'aimerais qu'on aille tous. Donc moi je n'y crois pas à la méritocratie, parce que c'est pas vrai, c'est pas elle fait pas éclore des talents, elle fait juste éclore ceux qui étaient là enfin elle fait même pas éclore, du coup elle les laisse dans le champ, ils étaient là depuis le début et voilà.
Mais justement, je veux dire, quand t'étais enfant, ado, est-ce que tes parents te disaient l'école c'est important?
Ah oui.
Et est-ce que tu t'autorisais à rêver au-delà de... Enfin, pourquoi Sciences Po? Pourquoi t'infliger cette violence? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, faut que je fasse de grandes écoles pour réussir, c'est le seul moyen?
Ben parce que l'ennui, quoi. L'ennui de pas vouloir passer toute ma vie dans un quartier populaire sur un banc. Et puis... ah oui, alors, ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais moi j'ai eu un déclic... C'est-à-dire que j'ai toujours voulu être journaliste, vraiment depuis la 6e. Quand je dis ça, c'est pas un mytho, c'est que j'ai toujours voulu être journaliste. Et en fait, moi, quand j'étais en 6e, il se passe un truc qui m'a... Mais même à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai fait... je crois que j'ai fait 3 mémoires là-dessus, hein. 3 mini-mémoires, c'est pas en sociologie. Ziad Ebouna, ça m'a traumatisée. En fait, j'ai été traumatisée par Ziad Ebouna. Pourtant, j'étais à 700 km. Apte, c'est là, à Paris, c'est plus haut, donc c'est à 700 km. C'est la banlieue du 93, c'est pas la mienne. C'est pas du tout les mêmes configurations. Et pourtant, quand j'apprends ça, je suis détruite, mais vraiment, de mes petites émotions de meuf de 6e, je suis détruite parce que je vois ce que c'est, je comprends très vite que c'est du racisme, et en tant que future journaliste, je bouffe les médias à longueur de journée. Et j'allume TF1, racaille, j'attends ça en boucle, mais en boucle, et moi, ce que je vois à la télé, c'est des gens, au-delà des émeutiers, et on peut en discuter, mais pour moi, c'était juste de la violence politique, plus que des émeutes.
Révoltés.
Voilà, des révoltes, exactement, merci. Le mot émeutier, c'était celui qui était utilisé, justement. Et donc, voilà, justement, au-delà de ces révoltes de nuit, de ces voitures qui brûlaient, des poubelles, etc., qui ont un sens politique, on le rappellera jamais assez, moi, je voyais aussi des manifestations, et je voyais des gens qui me ressemblaient. Je voyais juste des meufs qui étaient en survêtement, comme moi, j'étais en survêtement dans mon quartier, et qui étaient en colère qu'on ait tué leur petit frère. Et c'est, je suis fille unique, hein, j'ai pas de petit frère. Mais qu'est-ce que je ressentais, cette peine, je vous le jure, je le ressentais dans mon être et je la ressens encore aujourd'hui. Ziad Debouna, ça m'a traumatisée. Et le discours médiatique, le carcérisation, le machin. Et en fait, c'est tout simple, je suis devant ma télé et je me dis, ok, ben, on va être journaliste et on va changer tout ça. Mais du haut de ma sixième, parce que je me suis dit, si on ne change pas nous, qui va changer? Si nous, on ne porte pas ces discours-là juste sur les quartiers populaires, qui va le faire? Qui va avoir un regard bienveillant là-dessus? Et vraiment, c'est parce qu'à la télé, je voyais des gens qui me ressemblaient et c'est la seule fois où on nous voyait à la télé d'ailleurs. C'est la seule fois où on parlait de nous, c'était pour ça. C'était pour ça, c'était que pour ça. Et je voyais mes petits frères, mes petits cousins, pardon. Mes petits cousins, ils ressemblent à Ziad, en fait.
Et aussi, dans le traitement médiatique, en fait, il y avait une... on n'avait pas le droit, en fait, d'être endeuillé. Les personnes n'avaient pas le droit de... Voilà, il y avait tout de suite après, il y avait cette question de... mais la faute, elle revient vraiment aux policiers.
C'est ça.
Clairement, il n'y avait pas quelque chose de criminel dans, ouais, dans leur fuite, etc. Enfin, il n'y avait même pas le temps aux familles de juste...
Comme pour l'affaire Adama, c'est la même chose. Juste derrière, on a essayé d'incriminer, ben, tous les frères ont été incriminés. Ils ont tous eu des procès dans la lignée. Et c'est odieux, c'est incroyablement violent. Et moi, c'est venu de là. C'est venu de ce truc de j'en ai marre qu'on parle de nous en négatif. Et j'en ai marre qu'on parle de nous comme des racailles. J'en ai marre. C'est pour ça que quand je parle de moi, je parle toujours de mes parents et des sacrifices qu'ils ont faits parce qu'on oublie que eux, de base, ils sont venus en travaillant comme des chiens pour des métiers mal payés. C'est ça, nos histoires. Nous, par exemple, quand on parle des dealers, on parle de la prostitution en banlieue, etc., on oublie un facteur clé, c'est la précarité. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez faire n'importe quoi pour en avoir. Et puis moi, bah, toute ma vie, il faut imaginer quand même le traumatisme. Mon enfance, c'est de voir mon père rentrer à la maison, couvert de blanc, donc soit c'est du mortier, soit c'est du truc, les mains déchiquetées par les parpaings. Comment on peut ne pas avoir la haine, en fait, ensuite? Comment on peut pas tomber dans un truc de « c'est mes parents, la France est en train d'abîmer mes parents, comme elle a abîmé mes grands-parents dans la colonisation ». Donc c'est normal que ce soit des zones où c'est tendu, parce qu'on voit bien comment ils sont en train d'abîmer nos parents. Et donc, du coup, moi, je voyais ça, je voyais mon père qui regardait ça en rentrant du travail, qui regardait TF1, je voyais son corps à lui, je voyais mes petits cousins qui ressemblaient à Ziad, moi, je me reconnaissais dans les sœurs qui étaient en colère, par exemple, même à ça, je me reconnais, pourtant, on n'est pas du tout de la même origine ethnique, et je la comprends mille fois, sa douleur, mais je n'imagine même pas comment une famille doit être dévastée quand elle apprend que son fils est mort par les coups d'un policier, mais c'est une violence qu'on n'imagine même pas. Personne n'imagine son enfant mourir dans ces conditions-là. C'est pas comme ça, c'est pas l'avenir qu'on réserve à nos enfants. Et en plus de savoir que c'est juste lié à une couleur de peau, mais ça doit rendre fou. Enfin, sincèrement, ça doit rendre ouf. Mm-hmm. Et elles ont beaucoup de force, les femmes, les sœurs, les mères qui prennent ça à bras-le-corps et qui vont dans les rues. Et à ça fait quand même, je crois, ça fait 4 ans maintenant, je crois. Mm-hmm. Ouais, ça fait 4 ans qu'elle est dans la rue et qu'elle se prend des trucs policiers sur la figure. Mais bref, moi, je trouve ça... ces femmes-là, c'est des héroïnes, vraiment. Il faut vraiment parler comme ça. Et donc, ouais, moi, c'est né de ça. C'est né de l'injustice des mots. Et je trouvais ça injuste. Et j'avais conscience qu'en fait, avec mon image, je pouvais adoucir les choses. Bizarrement, parce que je suis une femme, déjà. Donc, quand une femme parle, c'est un côté... bizarrement, de manière sexiste, c'est un côté plus doux. Et je me suis dit que j'allais essayer de porter ma voix jusqu'au journalisme. Et je fais souvent des sujets, en fait, en lien là-dessus. Des sujets de prédilection, par exemple quand j'ai fait une des enquêtes que j'ai fait en collaboration avec Mediapart et le Bondi Blog, je voulais montrer que même en ayant fait des grandes études, c'est compliqué finalement pour les Noirs et les Arabes de s'intégrer sur le marché du travail, parce que ben, à Bac plus 5, un CV d'un Mohamed ou d'un Bouna, ben, il va poser 20 fois moins que le CV d'un Michel. Et donc voilà, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on nous pousse, on nous dit « Ouais, mais quand vous voulez pas sortir de votre quartier, ben ouais, mais quand on en sort, vous ne laissez pas rentrer non plus dans le nouveau milieu. » Donc, this is the problem. Moi, je suis bilingue aussi.
Je prends l'anglais, c'est bon.
Clairement, ça va. Alors que nous, sincèrement, on est quand même beaucoup plus méritants parce qu'on arrive de très loin.
Tu vois. Elle est où la discrimination positive, en fait?
Non, elle n'existe pas.
Est-ce que c'est nous qui sommes positivement discriminés? Est-ce que c'est pas eux qui sont
c'est ça.
Bien-nés?
Non, moi, j'ai jamais vu de discrimination positive. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais été prise parce que j'étais arabe, née dans un quartier. Au contraire, à chaque fois, on essayait... Encore, j'ai eu des... Quand même, j'ai travaillé dans des médias qui étaient bienveillants. Il y a quand même... Enfin, je ne vais pas cracher sur tous les médias parce qu'il y en a qui ont conscience de la richesse qu'on peut apporter, mais ils sont très, très rares. Ils sont très, très... Et ce n'est pas la majorité, en fait. Moi, je trouve que c'est un métier passe-temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, mais en fait, c'est un métier que tu fais quand tu as déjà de l'argent. que t'as déjà un héritage et que tu écris un article par là, une chronique par ici, c'est un truc, tu vois, c'est un...
Tu peux vivoter, tellement t'es privilégié.
Ouais. Voilà, c'est ça, l'aisance financière. Moi, vraiment, je vois comme un métier comme ça.
Mais grave.
Je vois comme un métier de, ouais, non, mais j'ai déjà des sous, donc je vais faire un truc, je vais m'intéresser aux autres. Tu vois, ça, ça donne ça, en fait. Je trouve que c'est un métier de réseau, encore. Tristement, un métier de réseau.
Ouais, c'est un marathon, c'est ceux qui survivent. Ouais,
c'est ceux qui survivent, c'est ça. Voilà, moi j'ai postulé dans une vingtaine de médias, sincèrement j'ai postulé. Et j'ai passé le stade de l'entretien. Et après, ça avance pas, quoi.
Je vais te poser une question sur la beurette et notamment le fait que ce type à Sciences Po en première année qui t'a dit t'as pris la place de ma sœur, il s'est pas dit que lui il avait pris la place de sa sœur aussi?
Non.
Dans le concours aussi, est-ce que vous avez les classements?
Ouais, on a un classement.
Mais du coup, est-ce que t'étais la dernière?
Non.
Voilà, donc t'as pas plus pris la place de ta sœur que lui-même.
C'est ça.
Et les autres mecs.
C'est ça.
Donc c'est archi sexiste aussi. Oui.
Je pense qu'ils pensent qu'on est là parce qu'on a une discrimination positive. Mmh. Ils pensent qu'on est là parce qu'on représente des quotas de diversité. Mais en fait, non, parce que ça n'existe pas. Non, mais il n'existe pas,
non,
ces quotas.
Ça n'existe pas.
À part quand c'est chiffré, mais en média, il n'y a personne qui leur demande quoi que ce soit. Ils ne rendent pas des comptes là-dessus.
Et surtout qu'on n'a pas la mentalité en fait des États-Unis, faut arrêter avec. Au moins là-bas, c'est assumé. Ouais. Mais cette discrimination positive, elle part du principe qu'on prend des gens qui sont en fait qualifiés pour ce taf en fait. Et ensuite, on choisit des personnes racisées, etc.
C'est ça.
Alors qu'en France,
c'est en dépit de notre couleur, d'ailleurs.
Tout à fait.
Exactement.
Mais c'est des personnes qualifiées. C'est ça, le postulat de base, en fait. En France, c'est totalement déformé, quoi.
C'est ce qui s'est passé avec le Sciences Po. Ils ont fait une procédure ZEP. Et moi, ils pensaient que j'étais issue de cette procédure ZEP. Donc pour eux, j'étais encore moins légitime. Ouais. Parce qu'il y a une procédure ZEP à Sciences Po. Elle s'appelle CEP. Moi, je l'appelle ZEP. Mais parce que c'est vers les zones d'éducation prioritaire, en fait, tout simplement. Mais en gros, ils ont des partenariats avec des lycées. Où ils préparent des mais ça c'est encore plus marrant cette histoire, parce qu'en fait Sciences Po donc fait des partenariats avec des écoles de banlieue en première terminale, ils sont accompagnés, etc. En terminale, ils doivent produire un dossier de presse et après ils passent devant un jury devant leur école, puis à Sciences Po. Donc c'est un concours qui est différent. Je dis pas qu'il est plus simple, parce que tout le monde veut dire ça, hein. Tout le monde dit mais ils ont fait un concours plus simple pour les banlieusards. Non, il est pas plus simple, il est adapté à leur niveau, à eux, parce que c'est pas le même niveau à Henri IV que dans un lycée du 93. C'est pas le même niveau. Donc ils ont créé cette procédure-là, et sauf que ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit « Ah, mais ça va niveler le niveau vers le bas, on va ramener des Noirs et des Arabes à Sciences Po, et ça va être catastrophique, etc. » C'est vraiment le discours qui a été quand Richard Descoings a lancé cette procédure au début des années 2000. Et elles se sont rendues compte, c'est Libération qui a fait, une enquête. Maintenant, les gens qui passent par cette filière-là, c'est 40% des CSP+. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, les SCSP+, à inscrire leurs enfants dans des écoles de banlieue pour qu'ils puissent rentrer à Sciences Po.
Mais toujours plus.
Toujours en manière de détourner. Donc en fait, discrimination positive, de rien du tout en fait. S'il y a presque la moitié de ceux issus de ces procédures-là sont en fait des gens qui l'auraient pu l'avoir sans cette procédure-là. Moi je trouve ça d'une violence incroyable. Les gens, ils achètent des taudis dans le... Il y en a qui ont les moyens de louer des taudis dans le 93.
Pour avoir une adresse là-bas.
Pour avoir une adresse là-bas et inscrire leurs enfants dans la terminale. Moi, à un moment donné, j'ai plus les mots, quoi. Et donc moi, du coup, pendant des années, la première question qu'on me dit, mais est-ce que t'as fait la procédure CEP juste pour pouvoir me dire, non, mais c'est bon, en fait, on a compris, t'es un quota.
T'as fait la passerelle facile.
Ouais, mais pas du tout. Moi, en fait, j'ai fait tous les concours, j'ai fait les concours basiques, entre guillemets. Donc ça c'est marrant parce qu'ils essaient de trouver comment ça se fait que tu es là en fait. Il faut qu'ils trouvent comment t'as pu passer dans les mailles du filet. J'ai travaillé comme toi en fait, j'ai lu des livres et puis c'est...
Non, mais t'as travaillé plus.
C'est ça en fait.
Tu partais plus loin.
Franchement je compte plus les heures de... Je compte plus les nuits, les insomnies.
J'avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux vides. Je suis pas resté les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas un fils de, il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain. Tu me demandes à qui est la faute. En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave, je n'ai pas les...
Pour en revenir à Sciences Po, je me souviens de ce mec en première année qui t'a dit « t'as pris la place de ma sœur ». Qu'est-ce que ça dit du sexisme à Sciences Po et dans les grandes écoles en général? Et qu'est-ce que ça dit de l'image qu'on se fait du mythe de la beurette?
Ouais, là c'est vraiment un sujet qui m'intéresse en plus. Parce que le mot beurette, il faudrait faire un cours juste sur ça. Parce qu'en fait le mot beurette, il est utilisé par toutes les classes sociales, mais il signifie pas la même chose. C'est-à-dire que si tu vas en banlieue, beurette ça veut dire michto. En fait, beurette c'est la meuf qui va... cliché, je dis vraiment cliché, n'écoutez pas ce que je dis, ne prenez pas au mot ce que je dis. Mais c'est grosso modo la meuf en talons hauts qui va dans des chichas en mini-jupe avec du fond de teint. C'est ça la beurette en banlieue, une michto. Une meuf qui cherche du fric, qui cherche un homme riche, une meuf facile. C'est ce que ça veut dire en banlieue le mot beurette. De l'autre côté, beurette pour un blanc ça veut dire quoi? C'est juste une meuf issue de l'immigration, qui est soumise à son père, soumise à son frère. Ça n'a rien à voir. C'est totalement deux visions de la femme arabe qui sont différentes, mais c'est le même terme utilisé. C'est-à-dire que moi, à Sciences Po Paris, une fois, il y a un camarade qui me dit « Ouais, mais toi, t'es une beurette. » Mais il me le dit pas avec le côté michto. Mais moi, ce qui me vient en tête, c'est quoi? C'est l'insulte michto. Lui, ce qui lui vient en tête, c'est juste « Ouais, t'es une meuf issue de l'immigration qui a fait des études et voilà, un peu soumise au patriarcat. » Grosso modo, lui, c'est l'image qui dit « Mais voyez comment on s'entend pas. » Parce que lui, il pense beurette dans ce sens-là, et moi, je pense beurette chicha. Donc moi, je fais « Mais tu viens de m'insulter en fait. » Et dans tous les cas, c'est une insulte. Et dans tous les cas, il est d'une violence incroyable, ce mot. Il est d'une violence incroyable parce que il signifierait que la meuf rebeu, soit c'est une déjantée sexuellement, voilà, qui, et encore, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, les femmes font ce qu'elles veulent de leur vie, mais grosso modo, ça veut dire ça. Une beurette, c'est soit une femme coincée qui a réussi parce qu'elle est plus sérieuse que son frère et parce que son père lui met une pression. Du coup, elle, c'est une bonne élève, etc. Soit c'est une meuf qui va dans des chichas, qui fréquente un milliard de mecs, etc. Dans tous les cas, c'est un cliché de femme qu'on veut pas avoir. Parce que déjà, le beurre, déjà, il est dur à porter. Parce que beurre, ça veut dire c'est une immigration maghrébine, etc. Mais le S, ça veut dire que t'es en sous-beurre. T'as le beurre suprême. Puis toi, t'es la petite beurrette, celle qui est juste en dessous. C'est ça, un côté.
En plus, c'est souvent petite beurrette. Genre, ouais. C'est petite
ou sale beurrette.
En fait.
Ou sale beurrette. C'est ça, en fait. C'est soit petite beurrette ou sale beurrette. Mais dans tous les cas, c'est extrêmement violent.
Bref, je m'avance, hein, mais c'est une hypothèse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dichotomie qui est c'est soit beurette, soit femme qui porte le foulard, pardon.
Bien sûr, mais ça, c'est cette dichotomie-là, tu l'as du côté quartier.
Oui, voilà, parce que moi, c'est comme ça que j'entends, en fait. Beurette, c'est l'inverse de la femme qui porte le foulard.
Exactement, le foulard. Ouais, exactement. Donc forcément déjanter sexuellement. Parce que nous, nous, la sexualisation, c'est summum. Nous, on est top 1 sur YouPorn. Ça, quand même,
en France.
Est-ce qu'on peut nous applaudir pour ça, s'il vous plaît?
Ou pas.
On est la recherche. On est la recherche la plus. Non, je dis ça ironiquement. Non, mais ce que ça signifie, parce que les gens, ils disent ça, ouais, bon, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Ça signifie que ton patron, ton collègue, ou potentiellement quelqu'un que tu croises dans la rue, avant de te voir, le matin, hier soir ou le matin, il a regardé une vidéo porno avec, en tapant beurette. Donc, toi, il te voit comment? C'est juste ça, c'est ça que ça signifie. Au-delà d'un fantasme sexuel, ça a un impact dans la vraie vie. Parce qu'encore aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'impact du porno et sur la fétichisation des femmes. Mais sur la femme arabe, c'est clairement vrai. Et moi, c'est pour ça que j'ai du mal, vraiment, j'ai même pas du mal avec ce mot, je le déteste, clairement, je le déteste et je corrige chaque fois que quelqu'un l'utilise. Parce que, surtout quand il est utilisé encore plus par les hommes arabes, qui me disent « Ouais, mais toi, t'es une beurette occidentalisée ».
Wow.
Ça veut dire quoi? C'est parce que je suis pas à la maison, parce que j'ai mon appart, parce que j'ai pas choisi de quitter chez moi avant de me marier. Tu vois, c'est en fait on a pas les femmes arabes vraiment, et je pense que les femmes noires c'est pareil, les femmes asiatiques c'est pareil. Hein. Chaque ethnie a ses particularités, mais on n'a pas le droit de vivre notre vie comme on l'entend. On n'a pas droit. Et ce mythe de la beurette, il est violent parce que voilà, il fait la distinction entre femmes soumises. C'est-à-dire potentiellement soumises entre guillemets. Elles ne le sont pas, mais c'est l'image qu'on veut avoir d'elles, les femmes voilées. Donc ce mot me gêne profondément et je le vis toujours comme une insulte.
J'ai l'impression que t'es passée par une période de retournement du stigmate où justement t'étais tellement traitée de beurette qu'à un moment tu l'as embrassée et tu t'es dit bah en fait je veux pas m'amuser à éviter de porter des talons, à éviter le maquillage pour éviter de tomber dans ce stéréotype là et je vais juste genre faire ce que je veux. Et donc, comment est-ce que tu t'entends dans ton genre et ta féminité et avec ce stéréotype de la beurette?
Bah en fait, si je porte un survêt, on va me dire racaille. Si je porte une voile, on va me dire soumise. Si je porte des talons, on va me dire beurette. Dans tous les cas, je vais me prendre quelque chose dans la figure, quoi. Donc, autant être moi-même. Mais après, c'est vrai qu'à Sciences Po, j'en ai joué. Hein. Je faisais exprès de leur parler de Audi et de Louboutin. Enfin, c'était. Je faisais exprès parce que. Je sais pas, moi, j'aimais bien voir leur réaction. J'étais là, ouais, moi, mon rêve, c'est d'avoir une Audi, de porter des Louboutins. Et encore, tu sais que. Une blanche qui dirait ça, est-ce que ce serait mal vu? Parce que tu vois, l'Assemblée nationale, elles sont toutes en Louboutin. Et elles ont potentiellement toutes des Audi. Mais elles, c'est classe, ça veut dire qu'elles ont réussi socialement. Mais nous, tu vois une meuf rebeu avec des talons et une Mercedes, tu vas te dire quoi? Ouais, c'est une michto, voilà, c'est une matérialiste. Enfin, nous, on n'a pas le droit aux choses comme les autres. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais nous, on n'a pas le droit à ça. On n'a pas le droit. C'est vulgaire sur nous.
Oui,
c'est ça en fait. Voilà, c'est vulgaire chez nous. Et ce qui m'a fait rire, parce qu'il y avait une mariage de ma pote qui est rebeu du coup, et on avait acheté des Louboutins, plusieurs, on avait fait un prix groupé, on les avait acheté trouvés sur Vinted, et on s'était acheté des Louboutins pour le mariage parce que ça allait bien avec nos robes, on avait des robes rouges et ça faisait un rappel. Et on les a jamais portés en dehors de ce mariage. et on pourra jamais les porter en dehors de ce mariage. Vous voulez qu'on les porte où? Même si, enfin moi je fais des conférences, si je les porte en conférence, je vais être, enfin la meuf qui parle de populaire qui a des loup-boutins, ça va pas passer. Si je les porte en soirée, on va me dire ah la beurette, je les porte où? Alors que pourtant c'est soi-disant le chic à la française, tu vois, c'est des aux États-Unis elles se les arrachent les loup-boutins. Enfin c'est un truc qui est rentré dans le bon goût mondial. Mais non, moi si je les porte des loup-boutins, on va penser quoi de moi? On a le droit de rien faire. C'est assez fou. C'est moi je trouve ça vraiment d'une violence folle. C'est-à-dire que même il y a des vêtements qu'on peut pas s'autoriser en public, qu'on s'autorise entre nous. C'est-à-dire que moi je peux mettre en survêtement avec mes copines, je peux pas mettre en survêtement dehors. Je peux pas aller si j'ai le mégarde d'aller je sais pas faire quelque chose avec un survêt, je sais qu'on va me dire oh la racaille. Alors que moi je suis quelqu'un de très sportif, je vais tout le temps à la salle de sport. Donc c'est potentiellement tu vas me croiser un milliard de fois en survêt. Et en face on va juste me dire ça en fait. Et comme le nombre de fois aussi où on m'a vu où tu me vois hyper coquette en soirée, etc. On me dit ah mais toi t'as fait Sciences Po, parce qu'ils ont l'image de Sciences Po, pas d'une meuf maquillée, pas d'une meuf en talons, pas d'une meuf coquette. Et ça moi c'est des cultures, enfin c'est la culture arabe qui est comme ça. Les femmes elles ont toujours été coquettes chez moi, donc je vois pas pourquoi je devrais m'interdire ça parce que les autres le voient d'une mauvaise façon.
Et tu trouves ça incompatible avec l'intelligence?
Ouais exactement.
Et encore plus incompatible avec le fait.
Mais surtout, encore une fois, c'est parce qu'une femme blanche, si elle sait se maquiller, on va dire waouh, quel talent! Quel talent, c'est incroyable! Comment t'as fait ton smoky? Comment t'as fait ton truc et tout? Alors que moi, si je me maquille, on va dire waouh, t'en as mis trop. Tu vois, c'est un. Moi, je trouve ça vraiment. Ce clivage-là de qu'est-ce qu'elle doit faire une femme blanche et qu'est-ce qu'elle doit faire une femme arabe. Mais c'est pas la même chose! Mais c'est absolument pas la même chose. On n'a pas le droit de faire la même chose, concrètement.
Et maintenant, tu penses que tu pourrais définir la femme que tu es?
Révoltée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'arrive à jongler avec tout ça. Ce qui avant, je n'arrivais pas à le faire. Avant, je n'arrivais pas à accepter toutes ces identités-là, à la fois arabe, à la fois femme, à la fois populaire. C'était compliqué pour moi d'encaisser. Maintenant, si j'arrive à en parler déjà dans un podcast, ça veut dire que je l'ai accepté. Donc, c'est déjà, pour moi, c'est déjà un très bon signe. C'est-à-dire que mon identité à moi, elle me convient, tant pis, elle ne convient pas aux autres. En fait, c'est ça, finalement, ce qui compte. On est plusieurs. Avec tout ce qui se passe en ce moment, à redéfinir justement ce que c'est une femme arabe. Et je pense qu'on progressivement, j'ai l'espoir qu'on nous donne enfin le droit d'être intelligente et d'être compétente. Je pense que c'est la prochaine étape. Et c'est fou, on est quand même en 2020 et je suis en train de dire ça quand même. Je suis encore en train de dire il faut qu'on considère les femmes arabes comme compétentes. Waouh, c'est... Mais en fait, en le disant, je me rends compte de la violence de la chose, quoi. On est en 2020, les gars. On est en 2020 et on est encore en train de dire je mets du rouge à lèvres, mais je suis compétente. Je m'appelle Nesrine, mais je suis intelligente. On est en 2020. C'est inquiétant. Dans un sens, c'est inquiétant. Mais plus on sera nombreux à en parler, et plus... J'ai l'impression quand même qu'il y a quand même plus de rôle modèle qu'avant. On parlait tout à l'heure comme les 10 000 papillons noirs, c'est ça? On parlait de ce livre-là et...
De Lorraine.
J'ai oublié de citer son nom, excusez-moi. Mais voilà, je pense qu'il y a des rôles modèles qui sont en train de se développer et on voit la puissance culturelle, c'est-à-dire que ça marche en fait. Ça marche quand on a ces discours-là, donc j'ai espoir que... Là, pour moi, la solution, en tout cas, c'est qu'il y ait de plus en plus de rôles modèles et de femmes et d'hommes qui ne sont pas dans les normes sociales, c'est-à-dire hommes blancs, hétérosexuels de plus de 50 ans.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force?
De voir que je ne suis pas toute seule. Je pense que ce qui nous rend faibles, c'est quand on garde tout ça pour nous, quand on garde la violence sociale, la violence raciste pour nous. Je pense que ça nous renferme dans une solitude. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est que voilà, mon discours, il l'a entendu. J'ai la chance de faire des conférences, donc j'échange avec des gens qui ont vécu la même chose que moi. Et ça, c'est ce qui me donne cruellement de la force. Et ça, c'est je me dis, j'aurais aimé en fait que ce que je suis en train de vous dire, on me le dise. C'est tout simple, mais ça aurait facilité mon entrée à Sciences Po. Si tout simplement cette conversation-là, quelqu'un l'avait eue avec moi avant d'entrer à Sciences Po, qu'on me dise, bon, écoute, on va te voir comme la pimbèche, rebeu, etc. Si on me l'avait juste dit, mais je ne me serais jamais remise en question moi-même et j'aurais gagné du temps, mais alors des années de ma vie. Donc moi, ce qui me donne la force, c'est de me dire qu'on peut maintenant avoir ce discours-là, qu'on a de la chance de pouvoir faire des trucs voilà, comme des podcasts où on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin du système, entre guillemets, pour le faire. Et ouais, ça, moi, ce qui me donne la force, c'est vraiment de voir l'impact que ça peut avoir. Après la vidéo brute, j'ai reçu vraiment plein de messages. Il y en a un qui m'a... J'ai reçu plein de messages comme ça, mais il y en a un que je vais vraiment garder. C'est une jeune femme qui est d'origine sénégalaise, je crois, qui vit et travaille en Belgique, et qui me dit « J'ai arrêté mes études parce que je ne supportais plus tout ce que j'en prenais à longueur de journée, en termes de sexisme, par rapport aux cheveux aussi, elle ne supportait plus. ta vidéo, elle m'a donné envie de me réinscrire à l'université. Et elle s'est réinscrite, elle m'a envoyé l'inscription à l'université. Et tu te dis, on va parler en fait. Si ça vous permet, vous, de faire des études, mais on va faire que ça, on va donner des micros, on va parler tous les jours, tu vois, c'est pas un souci. Moi, c'est ça qui me donne la force, c'est de me dire que. Et je pense que c'est chacun, en plus, j'ai vraiment un truc de me dire que c'est chacun d'entre nous qui peut avoir un impact. On a changé le modèle social. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans cette logique de. Même à ton échelle, avec ton réseau social, en faisant 2-3 vidéos, 2-3 podcasts, tu peux sensibiliser sur des sujets importants comme celui-ci. Et tu peux, t'imagines, tu peux changer la vie des gens. Tu sais, moi je trouve ça incroyable. Et combien de femmes ont changé ma vie juste parce qu'elles ont pris la parole, tu vois. Médiatiquement, moi, Faïz Aghen, ses livres, ils m'ont bouleversée, tu vois, parce qu'elle s'est autorisée à écrire ce qu'on faisait pas. Elle a publié très très jeune ses livres. Je crois qu'elle est à 500 000 exemplaires vendus dans le monde. C'est incroyable, alors qu'elle vient de banlieue parisienne aussi. Donc, c'est kiff kiff demain. Je parle de ce livre-là que j'avais lu quand j'étais jeune. Donc, je pense que. Ce qui me donne de la force, c'est de me dire qu'on peut avoir un impact pour que la vie des prochains soit meilleure que la nôtre. Et qu'on peut leur éviter les questionnements. On réduira peut-être la discrimination à long terme, mais déjà à court terme, on peut réduire la souffrance. C'est-à-dire que si on prévient les gens, déjà, c'est plus facile. Ça prépare, en fait, le fait de le dire. Donc voilà, moi, ce qui me donne de la force, c'est l'incroyable soutien déjà que je reçois quand je prends la parole et de voir que des autres se sentent mieux, se sentent compris. Je pense que c'est ça qui est galvanisant. Surtout dans notre métier, je pense que quand on est lu, quand on est écouté, quand on est écrit, ça nous touche particulièrement. Parce que moi, je ne crois pas au mythe du journaliste qui est détaché de son sujet. J'ai toujours dit que le journaliste, c'est un côté très subjectif. On a une obligation d'honnêteté, mais on n'a pas une obligation d'objectivité. On parle toujours de quelque part. On raconte toujours un récit à partir de sa propre histoire. Et donc, quand on est journaliste, je pense qu'on est particulièrement touché quand notre travail touche et interpelle.
Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
J'ai du mal à le dire. J'ai cette fausse humilité d'être un peu gênée quand on me dit bravo et tout ça. Mais en vrai, je suis très fière de mon parcours. Sincèrement, je suis très fière de mon parcours. Parce qu'en fait, je pense que, pour le coup, je ne crois pas à la méritocratie, mais je crois en mon mérite. C'est-à-dire que j'ai vraiment énormément travaillé. Même si j'en parle, les gens ne se rendront pas compte du chemin en fait, que j'ai parcouru depuis une petite campagne jusqu'à Sciences Po Paris. Donc, sincèrement, je suis très, très fière de moi. Et je suis très fière, surtout, sincèrement, je suis très fière d'avoir gardé... J'ai pas changé, en fait. Je pense que j'ai un milliard de défauts, mais j'ai pas changé ma personnalité. J'ai vraiment pas changé ce que mes parents m'ont inculqué, ce que mon milieu m'a inculqué. Et mes combats, ils sont encore ancrés là-dedans. Et ça, j'ai pas de problème avec mon reflet. Concrètement, j'ai vraiment pas de problème. Même dans mon reflet féminin, moi, je suis très bien dans ma peau. Je sais que physiquement, voilà, j'ai des complexes comme tout le monde. Mais quand je me vois, je me sens belle, je me sens intelligente. J'ai des choses à dire. Donc je suis pas. Ils ont pas réussi à ternir l'image que j'avais de moi-même, même si à une époque, c'était plus compliqué. Maintenant, concrètement, vraiment, je suis fière, très fière de moi, parce que c'est qu'en étant fière de moi, je suis fière de mes parents, je suis fière de mon origine sociale, je suis fière de mon origine ethnique, je suis fière d'être franco-marocaine, je suis fière d'être les deux. Concrètement, je suis vraiment très très fière d'être les deux. Je suis contente de ça. Je pense que quand on n'a pas confiance en soi, on peut pas avancer. Donc c'est important d'être à l'aise avec toutes ces identités-là. C'est très important, je pense que c'est ce qui nous permet de faire des choses positives par la suite.
Et enfin, ma question rituelle, est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire ?
Never. La meuf, elle répond en anglais, tu sais, quand c'est...
Excuse us.
C'est parce que si jamais il y a des Américains qui nous écoutent, nous, ça marche pas, c'est nous, la discrimination positive. Si vous pouvez nous donner des tips sur comment ça peut fonctionner, envoyez-nous des manuels, je sais pas. Traduisez la sociologie américaine, déjà, qu'on puisse l'utiliser en France. Mais non, je me suis jamais sentie majoritaire. Mais never. L'intersectionnalité en sociologie, déjà, nous, elle nous tue. Parce que tu peux pas te sentir majoritaire en tant que femme, déjà. Si tu m'enlèves juste la partie raciale populaire, tu me gardes juste la partie femme, mais je serai jamais majoritaire. Je suis peut-être majoritaire en nombre, et encore.
54%, je crois.
Ah, si, je suis majoritaire en nombre. Mais alors, qu'est-ce que je suis minoritaire dans le reste ? Enfin, non, vraiment, le mélange des discriminations...
Le cumul de pression.
Ouais, c'est ce que ça a prouvé en fait. C'est que femme, plus populaire, plus immigrée, c'est lourd quoi. Ça pèse. Non, je me suis jamais sentie majoritaire. Voilà.
Merci Nesrine.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi
de l'artiste Persian Empire.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.